de Dieu.
Quand l'actu te fait péter un câble, branche-toi sur
disjoncté.info.
Les jours de gloire d'Éric Zemmour sont repartis. Il est loin le temps où le candidat dépassait les 15% d'intention de vote et pouvait rêver de second tour. Depuis plusieurs semaines, sa campagne enchaîne les flops et le candidat plonge dans les sondages. Ces meetings n'ont évidemment pas cessé pour autant, et les partisans du pétainisme prévoient deux rassemblements dans la région. Ce vendredi, le 1er avril, Stéphane Ravier et Nicolas Bay, deux anciens lepénistes ralliés à Zemmour, sont annoncés au centre d'animation Pierre-Jacques à Fontaine-lès-Dijon. Les lieux et heures du contre-rassemblement antifasciste seront annoncés sous peu sur Dijoncté. Jeudi 7 avril, c'est un événement d'une autre ampleur qui se prépare, puisque Zemmour a annoncé qu'il comptait terminer sa campagne par une ascension vers la basilique de Vézelay, dans l'Yonne. Tous les poids lourds de sa clique sont annoncés au rendez-vous. Marion Maréchal, Nicolas Bay, Guillaume Pelletier, Philippe Devilliers ou encore Jean-Frédéric Poisson. Là-bas aussi, la riposte s'organise. La pétition lancée par des habitants du Vézelien contre la venue de Zemmour est à retrouver sur Dijoncté. Restons dans l'Yonne, mais faisons un pas de côté. Le site Vallée du Cousin rapportait il y a quelques jours une anecdote édifiante sur la zémourisation rampante des esprits. L'histoire se passe à Avalon, au pied du Morvan. Colette Guinlé, épouse Lipietz, nous a quittés dans sa 101e année à la mi-mars. Fille de résistant et résistante elle-même, elle avait épousé en 1946 Georges Lipietz. Georges avait été arrêté en 1944 parce que juif. Au soir de sa vie, des cauchemars venaient encore le hanter et il n'avait pas cessé de témoigner publiquement du souvenir de la Shoah et de la complicité de Vichy. Il était donc tout naturel pour la famille Lipietz de faire mention de ces événements familiaux traumatiques dans le faire-part de décès de Colette.
Elle est partie rejoindre son cher Georges, décédé le 18 avril 2003, qu'elle a soutenu au soir de sa vie, alors que ressurgissaient les violences traumatiques. Miraculeusement rescapé des griffes des gangsters SS, il n'a jamais oublié les centaines de petits-enfants qu'il a vus partir vers une mort atroce. Il n'a jamais pardonné à leurs bourreaux nazis, ni surtout à leurs ignobles complices de Vichy, dont le zèle a permis l'accomplissement de tels forfaits.
Or, voici que le service faire-part de Centre-France, dont dépend le journal, refuse de publier les lignes suscitées, au motif ci-dessous. Vous noterez que certains éléments ont été retirés du texte afin de préserver la neutralité de celui-ci. Merci de votre compréhension. Face aux protestations de la famille, la réponse apportée fut encore plus odieuse. Toutefois, au cœur de la page des avis d'obsèques, nous nous devons de faire paraître des textes les plus neutres possibles, sans aucun sous-entendu ou avec des termes accusateurs, même si, et je le conçois, le sujet abordé ici est tout à fait condamnable. Puis, plus tard, ce parti pris a pour but de témoigner du respect à l'ensemble des défunts, avec sensibilité et dignité. On se demande bien à quel défunt la mention de la Shoah et de la complicité du régime de Vichy manquerait de respect. À part aux nazis, à Pétain et à sa clique. Autrement dit, à des personnes qui n'ont eu aucun respect ni pour les morts ni pour les vivants. Le faire-part finira par être publié quelques jours plus tard, après la médiatisation de l'affaire par le site Vallée du Cousin, et un certain retentissement sur les réseaux sociaux. Il n'en demeure pas moins extrêmement inquiétant qu'il ait fallu en passer par l'écriture d'un article et la mobilisation sur les réseaux sociaux pour ce résultat. Cette affaire témoigne bien de la banalisation des idées d'extrême droite.